إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous avions évoqué précédemment l'héroïsme de certains compagnons durant cette bataille et leur détermination à défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque les musulmans furent acculés. Parmi ces figures héroïques durant cette bataille, Umm Umara, Nusayba bint Ka'b al-Maziniya, qui combattit vaillamment et reçut de nombreuses blessures. Elle n'était pas initialement prévue pour combattre, mais plutôt pour être au service des combattants. Seulement, après la confusion extrême sur le champ de bataille et que le messager se trouvait en danger, elle décida de protéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au péril de sa vie. Ibn Hisham rapporte, sans chaîne de transmission, que Umm Umara, Nusayba, la fille de Ka'b al-Maziniya, combattait dans la bataille de Uhud. Sa'd ibn Abi Zayd al-Ansari a dit que Umm Sa'd, qui est la fille de Sa'd ibn Rabi', avait coutume de dire « Je suis entré chez Umm Umara et je lui ai dit « Oh ma tante maternelle, raconte-moi ton histoire. » Elle répondit « Je suis sorti dans la matinée pour voir ce que font les hommes. J'avais une gourde remplie d'eau que je rendis auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était au milieu de ses compagnons. Au début, la supériorité et la victoire étaient du côté des musulmans. Lorsque les musulmans furent mis en déroute, je me suis rangé auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je livrai combat. Je défendais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je frappais par l'épée et je tirais des flèches jusqu'au moment où je fus blessé. Puis elle dit, j'ai reçu plusieurs coups au cours de cette bataille, dont un au cou. Ibn Sa'd dit que l'un des fils de Umm Sa'd a dit qu'elle creusa de nouvelles blessures. Et je lui demandai, qui a fait cette blessure, celle-ci? Elle répondit, c'est Ibn Qami'a, Kalalavidis, Akma'arullah, Kalalavidis. Ibn Qami'a est celui-là même qui a tué Mus'ab ibn Umair. Elle continue et elle dit, lorsque les gens s'enfuirent loin de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Qami'a vint dire, indiquez-moi où est Muhammad. Je ne serai pas sauvé s'il est sauvé. Alors moi et Mus'ab ibn Umair et quelques-uns qui sont restés fermement avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons intercepté. Il m'a donné ce coup et je lui ai rendu par beaucoup de coups, seulement cet ennemi d'Allah portait sur lui deux cuirasses. Donc ce récit a été rapporté par Ibn Hisham, mais sans chaîne de transmission. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut touché au visage. Ses incisives furent cassées, et le sang coulait de son visage. Alors qu'il essuyait son visage, il disait, comment un peuple peut-il réussir alors qu'il blesse le visage de son prophète, alors que ce dernier les appelle vers Allah? Kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Allah tabaraka wa ta'ala révéla le verset suivant concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Sourate numéro 3, verset 128. Tu n'as aucune part dans la décision divine. Qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Rapporté par l'imam Muslim, sous le numéro 1791. Dans les narrations rapportées par l'imam al-Bukhari, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus du fait que ses dents furent cassées, que son visage coulait le sang, son casque aussi se brisa sur sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a subi bon nombre de préjudices durant cette bataille. Et quand les polythéistes lui firent cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La colère d'Allah est très forte contre un peuple qui a fait cela à un prophète d'Allah. » Et le prophète montrait ses dents cassées à ce moment-là. Et dans une autre version, « La colère d'Allah est très forte contre un homme qui tue un prophète d'Allah. » Ces deux paroles ont été rapportées par Ibn Ishaq dans ses Marazi, mais là aussi sans chaîne de transmission. En revanche, ce qui est authentique est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari sous le numéro 4075. Après la bataille, Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lavait le sang qui coulait sur le visage de son père, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que Ali versait de l'eau sur son visage en se servant de son bouclier comme récipient. Quand Fatima, radiallahu anha, vit que l'eau ne faisait qu'augmenter le saignement, elle prit un morceau de natte, la brûla, puis l'appliqua sur la plaie, ce qui arrêta le sang. Parmi les nombreux actes héroïques de foi qui apparurent durant cette bataille, il y a le cas de cet homme qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, si je suis tué, où serais-je ?» Le prophète répondit « Au paradis. » Alors l'homme jeta les dattes qu'il avait en main et combattit jusqu'à obtenir le martyr. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 4046. Abdullah ibn Jahsh anhu, dit avant la bataille « Ô Allah, je jure que nous rencontrerons l'ennemi. Puis lorsque nous l'aurons rencontré, qu'il me tue, qu'il m'éventre ou qu'il me mutile, lorsque je viendrai à toi, tu me demanderas pourquoi cela t'est-il arrivé et je répondrai pour toi, ô Allah, pour ta face. » Et lorsqu'il rencontra l'ennemi, cela se produisit exactement comme il l'avait décrit. Radiallahu anhu. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont éventré et qu'ils l'ont mutilé. Cette narration est rapportée par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak et ce récit est déclaré authentique bien qu'il y ait une interruption entre Saïd ibn al-Musayyib rahimallah tabaraka wa ta'ala qui est un tabi'i et le récit en question. Mais les marasil de Saïd ibn al-Musayyib sont déclarés authentiques. Il y a aussi le cas de Amr ibn al-Jamuh, Amr ibn al-Jamuh al-Ansari, qui combattit avec ses quatre fils, malgré son handicap. Ses enfants avaient essayé de le dissuader de participer à cette bataille du fait de son infirmité. En effet, il boitait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit qu'il était dispensé de combattre. Mais il répondit, « Informe-moi. » « Si je suis tué aujourd'hui, aurais-je la possibilité de fouler le paradis par cette jambe boiteuse ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Oui. » Il répondit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je foulerai par celle-ci aujourd'hui le paradis si Allah le veut. » Et il combattit jusqu'à trouver le martyr. Narration rapportée par l'imam Ahmed et c'est une narration authentique. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses enfants, laissez-le participer à cette bataille si vraiment c'est le martyr qu'il recherche. Les spécialistes des récits de bataille et des biographies On rapportait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos de Sa'd ibn Rabi'a, l'Ansari. Qui m'apportera des nouvelles de Sa'd ibn Rabi'a? Alors un homme des Ansars, du nom de Muhammad ibn Maslama, ou bien on a dit que c'était Ubay ibn Ka'b, alla à la recherche de Sa'd et le trouva parmi les blessés à l'agonie. Sa respiration était semblable au bruit d'un soufflet. Il lui dit, le messager d'Allah t'envoie ses salutations et te demande si tu es encore vivant. Sa'd lui dit, le messager d'Allah est encore vivant? Il répondit oui. Il dit, quant à moi, je suis parmi les morts. J'ai reçu 12 coups de lance et une d'entre elles m'a transpercé. Transmets mes salutations au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dis-lui qu'Allah te récompense de la meilleure récompense pour ce que tu as fait pour nous. Et dis à mon peuple, je vous enjoins par Allah de respecter le pacte de la nuit de l'Aqaba. Vous n'avez aucune excuse devant Allah si le messager d'Allah est tué alors que l'un de vous est encore en vie. Puis il rendit l'âme. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Muhammad ibn Maslama ou Ubay ibn Ka'b retourna vers le messager d'Allah et a dit, je retournais vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'informa de la mort de Sa'd ibn Rabi'a, ainsi que de ses paroles, de ses dernières paroles. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tourner vers la Qibla, lever ses mains vers le ciel et dire, ô Allah, rencontre Sa'd ibn Rabi'a en étant satisfait de lui. Cette narration était rapportée par Al-Hakim dans son Mustadrak avec une chaîne de transmission authentique et cela a été confirmé par l'imam Al-Zahabi. Malgré la permission accordée aux personnes faibles, il y avait des gens qui avaient qu'une envie, c'est de participer à cette bataille, malgré leur handicap, malgré leur faiblesse, malgré leur âge avancé. Ce fut le cas de Al-Yaman et de Thabit ibn Waqsh, tous deux des Ansari. Ils refusèrent de rester à l'arrière avec les femmes et les enfants dans les forteresses. Ils s'élancèrent dans la bataille à la recherche du martyr. Thabit fut tué, lui, par les mécréants, tandis que Al-Yaman fut tué par erreur par des musulmans. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa de verser le prix du sang, Ad-Diyah, au fils d'Al-Yaman, Hudhayfa, pour la mort de son père. Mais Hudhayfa fit don de toute cette somme en aumône aux musulmans. Et cela augmenta encore davantage l'estime et l'affection que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui portait. Cela a été rapporté par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission qui est bonne. On raconte aussi que Hanzala ibn Abi Amir, qui je vous le rappelle, est le fils de Abu Amir al-Fasiq, al-Rahib, celui-là même qui ne cessera de comploter avec les hypocrites pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sournoisement. Et donc son fils était un compagnon, Hanzala. Et il était un jeune marié, la nuit où il entendit l'appel au combat. Il se hâta de sortir sans même se laver et combattit jusqu'à être tué en martyr. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le vit parmi les morts, il dit, votre compagnon est en train d'être lavé par les anges. C'est pour cette raison qu'il fut ensuite connu sous le nom de Rasilul Malaika, celui que les anges ont lavé. Radiallahu anhu. Cette narration a été rapportée par l'imam Al-Hakim dans son Mustadrak, par une chaîne de transmission authentique, et confirmée par l'imam Al-Dhahabi, et Cheikhoun Al-Albani a rendu ce récit bon. Deux autres combattirent aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Et ils furent un exemple et un modèle pour les juifs qui s'étaient convertis à l'islam. L'un d'eux était Mukhayriq, radiallahu anhu, qui sortit au combat. Et il dit, si je suis atteint, Alors mes biens iront à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui en fera ce qu'il voudra. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Mukhayriq est l'un des meilleurs parmi les juifs. Seulement cette narration est faible. Parmi eux aussi se trouvait un homme du nom de Usayrim Amr ibn Uqaysh, qui détestait l'islam jusqu'au jour de Uhud. Il se convertit ce jour-là, rejoignit les musulmans, combattit jusqu'à obtenir le martyr, et cela sans avoir accompli une seule prière. Cela a été rapporté par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission qui est bonne. Parmi aussi les choses que l'on peut citer durant cette bataille, ou en parallèle de cette bataille, il y a le cas de Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu. Celui qui invectivait les Quraishites avec ses poèmes. Hassan ibn Thabit, bien qu'il n'ait eu l'honneur de participer à cette bataille et à d'autres avec l'épée, il fut honoré en y participant par la puissance de la parole dans l'éloge des héros musulmans de cette expédition et d'autres. Hassan ibn Thabit faisait partie de ceux qui avaient une excuse valable. Al-Kalbi rapporte que la lâcheté n'était pas dans la nature de Hassan ibn Thabit, mais qu'il était au contraire un homme courageux. Seulement une blessure l'empêchait de combattre. Un nerf de sa main avait été sectionné, ce qui l'empêchait de frapper par l'épée ou bien même de porter l'épée. Et cela explique les récits disant qu'il s'abstenait de combattre, comme cela fut rapporté par l'imam al-Tabarani, selon lequel il se trouvait avec les enfants dans un fort lors d'une bataille. Lorsqu'un juif arriva et essaya d'observer ce qui se trouvait à l'intérieur du fort, là, Safiyyat bint Abdel Muttalib lui demanda de descendre pour tuer l'homme. Et alors, il lui répondit, « Je ne suis pas capable de cela, à cause de cette infirmité. Car si j'en étais capable, je serai au moment présent aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ de bataille. » Safiya le fit elle-même. Elle tua ce juif, puis ils lui coupèrent la tête. Puis, elle lui demanda de jeter la tête en bas de la forteresse. Et là encore, il s'excusa. Elle le jeta alors elle-même. Et les juifs, pensant que la forteresse était défendue par des hommes, s'enfuirent. Non. Donc ce récit, sous cette forme-là, est faible. Seulement, ce qui est authentique, c'est que Hassan ibn Thabit n'avait la capacité de participer aux batailles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de son infirmité. De même, il était vieux. Il faut savoir que Hassan ibn Thabit a vécu 60 ans dans la Jahiliya et 60 ans dans l'islam. Et donc, au moment de la bataille de Uhud, il avait déjà dépassé la soixantaine. Non. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Non. Parmi ceux qui ont combattu ce jour-là, non pas pour la cause d'Allah, mais plutôt comme quelqu'un qui a combattu pour son clan et sa lignée et son honneur personnel, un homme du nom de Qusman, qui avait tué 7 ou 8 associâtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie des gens de l'enfer. Alors les musulmans se sont étonnés. Comment une personne qui a combattu aux côtés des musulmans, qui a tué à lui seul 7 ou 8 associâtres, fait partie des gens de l'enfer? Il faut savoir que cet homme-là a été questionné. Pourquoi as-tu combattu? Et il a dit, si ce n'était pas pour protéger les miens et ma lignée, je ne serais pas sorti au combat. Donc les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avaient vu juste sur cet homme-là. Et le jour où ses blessures lui furent insupportables, il prit une flèche de son carquois et se suicida avec. Cela donc est venu confirmer les dires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre aussi que l'intention est le fondement du djihad. Il n'y a pas de djihad sans une intention saine et sincère vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chose notable aussi, durant cette bataille, ce sont les femmes qui ont accompagné l'armée musulmane pour être au service des combattants. Ces femmes donnaient à boire aux combattants assoiffés, soignaient les blessés et assistaient les soldats. Parmi elles, Umm Umar, que nous avons cité, Nusaybah bint Ka'b al-Maziniya, qui elle, malgré elle, a participé au combat, alors que initialement elle était prévue pour accompagner les soldats, soigner les blessés et les abreuver. Il y a aussi, parmi les femmes qui sont sorties durant cette bataille de Uhud, Hamna bint Jahsh al-Asadiyya. Hamna bint Jahsh a perdu dans la bataille de Uhud son mari, Mus'ab ibn Umair, son frère, Abdullah ibn Jahsh, et son oncle maternel, Hamza ibn Abdel Muttalib. Tous furent tués. Malgré cela, elle patienta, espérant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit des éloges et la vanta pour sa patience. Parmi aussi les femmes qui sortirent durant cette bataille, Umm Sulayt, qui est la mère de Abi Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu. Sortie aussi parmi les femmes, Umm Sulaym, qui est la mère de Anas ibn Malik. Et enfin, sortie aussi la mère des croyants, Aisha, radiyallahu anhunna ajma'in. L'imam Muslim rapporte sous le numéro 1810 que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit à Uhud avec Umm Sulaym et un groupe de femmes des Ansar. Elles donnaient de l'eau aux combattants et soignaient les blessés. Nous verrons, inshallah tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, les versets relatifs à cette bataille en reprenant les explications de certains commentateurs du Coran. Puis nous verrons, inshallah tabaraka wa ta'ala, quels furent les événements juste après cette bataille et quelles ont été les conséquences et les implications de cette bataille dans la suite des événements. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu kama nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.